Et c'est l'heure du journal de Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Les États-Unis ordonnent le retrait d'une partie de leur personnel diplomatique en Irak. Les Américains se préparent-ils à une confrontation avec l'Iran voisin? Élément de réponse avec Aurélien Colli à Beyrouth dans un instant. L'appel de Christchurch lancé ce soir à Paris. 26 États et géants du net s'engagent contre les contenus terroristes et extrémistes en ligne. Les explications de Nathanaël Charbonnier. Les élections européennes avec une page très riche dans ce journal. Nous irons d'abord en Suède où l'Europe fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus. Retour en France avec Rosalie Lafarge qui nous présentera quelques-unes de ces petites listes qui briguent les suffrages des Français. Et puis Stéphane Robert reviendra sur le coming out d'un élu insoumis, Andrea Cotarac, conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Il appelle à voter Rassemblement National pour faire barrage à Emmanuel Macron. C'est un nouveau signe de la montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Washington va retirer de l'Irak voisin une partie de ses diplomates. Les Américains, qui ont renforcé ces dernières semaines leur présence militaire dans le Golfe Persique, ils soupçonnent ouvertement les Iraniens de préparer des attaques contre leurs intérêts dans la région. De son côté, Téhéran a décidé de ne plus respecter une partie de ses engagements nucléaires. On fait le point avec notre correspondant Aurélien Colli.
Pour justifier son alerte, le département d'État invoque des menaces de milices confessionnelles anti-américaines, autrement dit des éléments irakiens, chiites, proches de l'Iran, accusés ces dernières semaines par Washington de préparer des attaques contre les intérêts américains ou ceux de ses alliés dans la région. L'argument a déjà légitimé l'envoi sur zone d'un porte-avions, de sa flotte et de bombardiers B-52 par le Pentagone. Et même si un porte-parole britannique de la coalition internationale en Irak et en Syrie a démenti toute aggravation de la menace iranienne, Washington persiste avec cette alerte en Irak qui met encore un peu plus la pression sur Téhéran. Au risque d'un conflit, s'inquiète la Russie en accusant les États-Unis de provocation, alors que la tension dans la région est déjà alimentée ces derniers jours par les révélations du New York Times sur un plan américain de déploiement de 120 000 hommes face à l'Iran. Tension alimentée aussi par de mystérieux sabotages de pétroliers saoudiens, émiriens et norvégiens dimanche à la sortie du Golfe Persique. Tension alimentée enfin par une attaque de drone hier contre un oléoduc saoudien. Attaque revendiquée par les rebelles yéménite soutenu par l'Iran.
Aurélien Colli depuis Beyrouth. Autre indice de la poussée de fièvre entre Téhéran et le camp occidental, l'Allemagne et les Pays-Bas annoncent ce soir la suspension de leurs opérations de formation militaire en Irak. Les armées allemandes et néerlandaises invoquent une situation à risque pour leurs quelques 200 instructeurs présents sur le sol irakien. Au Niger, une attaque attribuée à des terroristes islamistes a fait au moins 17 morts dans les rangs de l'armée nigérienne hier. Une patrouille est tombée dans une embuscade à la frontière malienne. Le bilan est lourd. Outre les 17 soldats tués, 11 autres sont portés disparus. En octobre 2017, dans cette même région du Niger, 4 soldats américains et 5 militaires nigériens avaient été tués par des djihadistes, attaque revendiquée à l'époque par l'État islamique. La lutte contre le terrorisme qui se joue aussi sur les réseaux sociaux, c'est le sens de l'appel de Christchurch aujourd'hui à Paris. Une initiative d'Emmanuel Macron et de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, 2 mois après le massacre d'une cinquantaine de musulmans en Nouvelle-Zélande. 26 États et géants du net s'engagent contre la diffusion de contenus terroristes et extrémistes violents. Le tueur de Christchurch, Brenton Tarrant, avait diffusé en direct sur Facebook la tuerie. Le groupe de Mark Zuckerberg a donc décidé de s'associer à l'initiative franco-néo-zélandaise. Nathanaël Charbonnier.
Facebook a bien compris qu'il est dans son intérêt de proposer des évolutions de son système plutôt que de subir des lois qui seraient imposées par les États. Critiqué pour avoir tardé à interrompre la vidéo du tueur australien, dont des images s'étaient très rapidement répandues sur Internet, Facebook explique ce matin avoir trouvé la parade pour que cela ne se reproduise plus. Laurent Soli, vice-président de Facebook Europe du Sud.
Nous durcissons les règles d'utilisation de Facebook Live. Nous allons interdire à des utilisateurs qui auraient enfreint nos règles les plus sensibles et les plus strictes de sécurité l'utilisation du live.
Et Facebook entend encore aller plus loin. Il s'agit cette fois de lutter contre les fake news, les faux documents, images trafiquées, vidéos modifiées. L'entreprise va financer un groupe de recherche qui aura pour mission de trouver des outils pour les déceler. Laurent Soli.
Nous annonçons une deuxième mesure ce matin. C'est qu'il faut qu'on accroisse l'efficacité des dispositifs technologiques pour bloquer ces contenus manipulés. Et la deuxième mesure, c'est un programme de recherche de 7,5 millions de dollars avec 3 universités américaines pour lutter contre la manipulation des contenus. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, ça peut être de l'audio.
Enfin, Facebook, qui a décidé de se montrer bon élève, confirme avoir changé son fonctionnement afin de payer plus d'impôts en France.
Nathanaël Charbonnier. Angela Merkel reconnaît avoir une relation conflictuelle avec Emmanuel Macron dans une interview publiée aujourd'hui par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Bien sûr, nous avons une relation conflictuelle, déclare la chancelière allemande, qui ajoute qu'il y a des différences de mentalité entre elle et le président français. On reste en Allemagne où l'affaire Balzen prend désormais un tour politique. Verena Balzen, l'héritière de la célèbre marque de biscuits, a minimisé dernièrement l'exploitation par l'entreprise des travailleurs forcés à l'époque nazie. En pleine campagne européenne, la polémique a rebondi sur la responsabilité fiscale des héritiers de l'empire Balzen. Le reportage à Berlin de David Philippot.
Sur la scène d'une conférence sur le marketing, micro dans une main et l'autre main dans la poche, Verena Balzen commente avec ironie la polémique sur l'expropriation des entreprises envisagée par les sociaux-démocrates.
Moi, je suis capitaliste. En tout cas, je ne suis pas du tout anticapitaliste. Un quart de l'entreprise m'appartient et cela doit rester ainsi. Je veux gagner de l'argent pour pouvoir m'acheter des yachts grâce aux dividendes et tout ça.
Des propos plus que provocateurs qu'elle réitère devant une journaliste de Bild qui lui objecte qu'une bonne partie du succès de l'entreprise est fondée sur l'exploitation de travailleurs forcés à l'époque nazie. Elle répond...
C'était il y a bien longtemps et nous avons payé et traité ces travailleurs aussi bien que les Allemands. Nous n'avons rien à nous reprocher.
Des propos révisionnistes qui nient l'exploitation de 200 travailleuses venues d'Ukraine et de Pologne pour alimenter la Wehrmacht. Des demandes de dédommagement ont été repoussées par la justice allemande en 1999, car prescrites, mais l'entreprise a versé au début des années 2000 un dédommagement équivalent à 2500 euros par ouvrière, une polémique qui a aussi rebondi sur le terrain politique, avec la réaction du secrétaire général du SPD, reprise par les médias allemands.
Celui qui hérite d'une telle fortune hérite aussi de la responsabilité et ne devrait pas apparaître aussi déconnecté.
L'entreprise Balzen, créée il y a 130 ans, a dit reconnaître sa responsabilité morale et historique. Un appel au boycott de ses biscuits a été lancé sur les réseaux sociaux.
David Philippot. Comme chaque mercredi, nous nous intéressons à la campagne des élections européennes chez nos voisins, direction la Suède ce soir, un pays où l'Union européenne est très populaire, alors que dans les années 2000, c'est plutôt le sentiment anti-européen qui dominait. Aujourd'hui, aucun parti politique suédois ne défend la sortie de l'UE, car la Suède a une économie tournée vers l'exportation. Elle a donc besoin de l'Europe. Le reportage à Stockholm de Frédéric Faux.
Jimmy Åkesson och Jan Björklund, varsågoda.
Le leader d'extrême droite Jimmy Åkesson, eurosceptique, et Jan Björklund, qui dirige les libéraux pro-européens, sont sur la même scène. Deux hommes que tout oppose, et c'est justement pour ça qu'ils ont choisi d'organiser eux-mêmes trois duels où ils exposent leurs arguments devant un public qui pose aussi des questions. L'objectif de cet exercice inédit est d'inciter les Suédois à voter. Si la Suède est entrée à reculons dans l'Union en 1995, elle est aujourd'hui le pays où cette institution est la plus appréciée. Thomas Persson est professeur de sciences politiques à l'université d'Uppsala.
La Suède est un petit pays qui dépend beaucoup du marché unique. Il est essentiel pour nous de faire partie d'un ensemble comme l'Union européenne. C'est un havre de paix dans un monde très peu sûr.
Les partis politiques se sont donc saisis de la question européenne, mais aussi les syndicats, très importants en Suède. Karl-Petter Thorvaldsson, secrétaire général de la puissante fédération LO, a ainsi participé à plusieurs débats. Car pour lui aussi, ces élections sont une échéance importante.
Beaucoup de choses sont décidées à Stockholm, à Bruxelles ou Strasbourg. Par exemple, des règles liées au salaire ou celles qui s'appliquent quand on travaille dans un pays tiers. Pour ça, il est presque plus important de voter aux élections européennes qu'aux élections nationales.
Lors du précédent scrutin européen, 51% des Suédois s'étaient déplacés pour voter.
Frédéric Faux, correspondant en Suède. En France, 34 listes se disputeront le 26 mai les suffrages des électeurs. C'est un record depuis les premières élections européennes en 1979. Il y a aujourd'hui une quinzaine de listes qui apparaissent dans les intentions de vote. Et puis, il y a celles qui n'arrivent pas à franchir la barre des 0,5% dans les sondages. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Malgré de faibles moyens et une notoriété toute relative, ces petites listes espèrent au moins se faire entendre.
Se faire entendre d'abord.
d'abord pour essayer de changer l'Union européenne. Il y a dans ces petites listes des mécontents de l'UE, des Français qui voudraient changer de système. Robert de Prévoisin prône le retour à la monarchie et emmène la liste une France royale au cœur de l'Europe.
On n'est pas contre une Europe, hein, mais une autre. L'Union européenne qui veut dissoudre la France ne nous convient pas. Nous sommes partisans d'une Europe du type de ce que le général de Gaulle avait prescrit, c'est-à-dire une Europe des nations, une communauté de pays souverains européens.
Sans attendre le retour du roi, l'UDLEF, elle, préconise une meilleure gestion des frontières européennes et des migrations. Christian-Luc Person est tête de liste de l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité.
Pour entrer en France et en Europe, il faudrait qu'il y ait des conditions beaucoup plus sérieuses, en fait, qu'il y ait un peu comme aux États-Unis une base de données qui référence les candidats à l'entrée. L'objectif des flux migratoires n'est pas d'ouvrir l'Europe à l'ensemble des peuples d'Afrique, mais d'amener la qualité de vie de l'Europe à l'ensemble des Africains.
Des préoccupations bien loin de celles de Pierre Dieumegarde. À 63 ans, il n'est pas seulement capable de chanter l'hymne européen en espéranto, il est numéro un d'une liste qui porte une revendication principale, généraliser cette langue en Europe.
Ce n'est pas pour être mis à côté des 24 autres langues officielles, ça n'est pas non plus pour les remplacer. C'est fait pour permettre la communication. Ça pourrait être utile en haut de l'Union européenne pour l'administration européenne et il peut aussi être utile à la base pour les jumelages de classe ou les voyages scolaires, etc. Donc avec l'espéranto, on pourrait plus facilement permettre une communication entre les Européens.
Mais d'autres ont déjà trouvé le langage commun des Européens. Au parti animaliste, on pense que la cause animale peut rassembler au-delà des langues et des frontières nationales. Sa fondatrice Hélène Thouy voit en l'Union européenne l'échelon majeur pour peser aujourd'hui. En tout cas sur cette question du bien-être animal.
La quasi-totalité des avancées en matière de protection des animaux proviennent du droit de l'Union européenne et ce n'est que sous la pression de l'Union européenne que l'on a pu avoir des avancées dans ce domaine en France. Donc c'est vraiment une élection qui nous paraît vraiment importante du point de vue de la cause animale.
L'Europe comme outil pour faire avancer sa cause, c'est également le parti pris de Gilles Elgen, numéro 1 de la liste pour l'initiative citoyenne. Avec ses 78 colistiers, ils espèrent faire valider au niveau européen la possibilité d'un référendum citoyen calqué sur le modèle suisse.
Dans mon esprit, le seul moyen d'obtenir en France le référendum à l'initiative des citoyens, c'est de le faire passer par l'Europe. Si l'Europe ne l'impose pas aux Français, il me semble impossible que les deux chambres acceptent cette notion où ils n'auraient plus aucune responsabilité à leur niveau.
Des revendications diverses et variées portées par des partis qui ont un point commun, la faiblesse de leurs moyens. Elles sont nombreuses, ces petites listes, à tenter de limiter les frais et à par exemple proposer d'imprimer vous-même votre bulletin de vote disponible sur les différents sites internet des formations.
Rosalie Lafarge, merci. Et demain à 18h, nous continuerons notre exploration des petites listes en piste pour ces élections européennes. Le Rassemblement National, lui, est aujourd'hui en tête dans la plupart des sondages, talonné par La République En Marche, les deux listes évoluant entre 21 et 23% des intentions de vote. Le RN, qui se félicite du ralliement d'un élu insoumis, Andréa Cotarac, conseiller régional LFI en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a fait son coming out hier soir sur BFM TV. Il appelle à voter Jordan Bardella pour, dit-il, faire barrage à Emmanuel Macron. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Ce ralliement a littéralement pris de court Jean-Luc Mélenchon et ses amis.
Oui, il y a d'abord eu de la stupeur et du désarroi dans les rangs de la France insoumise, mais ces sentiments ont vite fait place à de la colère, en particulier chez Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé d'une boule puante et d'un coup monté de la part d'un traître à quelques jours du scrutin européen. Mais ce qu'il faut bien noter dans les propos d'Andrea Cotarac hier soir sur BFM TV, c'est bien sûr qu'il appelait à voter pour le Rassemblement National, mais aussi et en premier lieu qu'il avait décidé de quitter la France insoumise.
Moi j'ai adhéré à la France insoumise et derrière Mélenchon la moitié de ma vie. Et c'est triste et en même temps grave de voir qu'on ne souhaite plus défendre les intérêts du peuple, mais ceux de la gauche, en vue des municipales, en vue des régionales. Et donc, effectivement, j'ai décidé de quitter la France insoumise. Je quitte la France insoumise sans dire que Jean-Luc Mélenchon est un dictateur, un stalinien ou Dracula, ou qu'il boirait des bols de sang tous les matins. Ce n'est pas vrai, c'est une personne formidable. Malheureusement, la pensée mélenchoniste à laquelle j'ai adhéré, de la France indépendant, d'une république ferme face au communautarisme, d'un combat social fort. Aujourd'hui, je pense, est minoritaire au sein de la France insoumise et même ultra-minoritaire au sein de la gauche.
Cette défection d'Andrea Cotarac vient s'ajouter à d'autres départs qui ont eu lieu ces derniers mois. Il y avait eu l'été dernier le départ de l'économiste Liem Wang Ngoc qui revendiquait une meilleure place sur la liste pour les européennes. Puis au mois de novembre, les exclusions du conseiller de Mélenchon Djordje Kuzmanovic et de l'ex-secrétaire général du parti de gauche François Koch qui dénonçaient eux une organisation antidémocratique. Tout ça, en plus de l'échec du média, la télé fondée par les Insoumis et de l'épisode désastreux des perquisitions en octobre dernier, est venu concrétiser une lente et continue perte de crédit dans l'opinion de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, qui fait qu'aujourd'hui on les retrouve à 8 ou 9% dans les intentions de vote, bien loin des 19,3% du premier tour de la présidentielle de 2017.
Stéphane Robert, merci. Troisième journée du procès Balkany devant le tribunal correctionnel de Paris. Cet après-midi, Patrick Balkany a été entendu sur le premier volet de l'affaire de fraude fiscale. Le maire de Levallois-Perret a tenté de justifier l'origine des fonds en espèces avec lesquels lui et son épouse Isabelle réglaient toutes leurs dépenses. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
Pour que vous compreniez, il faut que je vous parle de mon père. Très droit dans sa veste bleue, Patrick Balkany entame alors, voix grave et lente, le récit familial. Ce père hongrois qui a fui les nazis, il s'approche du tribunal, voici sa carte de déporté résistant, je vous la remets. Ce père qui rachète à la Libération un stock de l'armée américaine et fait fortune dans le prêt-à-porter de luxe avec l'un des plus grands magasins de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Mon épouse, poursuit Patrick Balkany, était actionnaire d'une très grosse affaire dans le caoutchouc. Il y avait des espèces dans les coffres de mon beau-père et de mon père, des lingots d'or aussi. J'aurais pu les déclarer, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Français qui déclarent ce qu'il y a sous le matelas. Il liste encore les actions et les appartements vendus, sa permanence de Levallois, les tableaux, le mobilier, les millions de francs s'additionnent par dizaines à l'appui de sa conclusion. Les billets, ils venaient de là, mais ce que nous avons dépensé, c'est notre argent. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Quant à la fraude fiscale, Patrick Balkany l'a balayé d'un revers de manche, son moulin de Giverny, surévalué par le fisc, on connaît ses méthodes, lâche-t-il, et je n'ai pas un amour fou pour cette administration. Idem pour la villa Pamplemousse de Saint-Martin, dont il affirme ignorer les montages financiers complexes, et nous ne sommes absolument pas propriétaires à Marrakech. Mais l'histoire, dit-il, je vous la raconterai la semaine prochaine, semaine au cours de laquelle les juges se pencheront cette fois sur les faits de blanchiment, corruption et prise illégale d'intérêts.
Florence Turme depuis le Palais de Justice de Paris. Les accompagnants des élèves handicapés réclament un meilleur statut. Plusieurs dizaines d'entre eux ont manifesté aujourd'hui à Paris au moment où le Sénat examine le projet de loi Blanquer pour une école de la confiance. Le texte du ministre de l'Éducation prévoit des mesures pour les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Des mesures justement jugées insuffisantes par les syndicats qui appelaient à manifester devant le Sénat.
Oui, les AESH sont venus dénoncer précisément l'article 5 de la loi Blanquer, qui risque d'accroître encore plus leur précarité, selon Hélène Éloire, déléguée CGT Éducation et AESH à Bordeaux.
Le nouveau texte, ça va être 2 contrats de 3 ans pour arriver à un CDI. Jusqu'à présent, c'était 6 contrats de 1 an. Mais un CDI qui peut être à 20 heures par semaine, hein, payer 612 euros, hein, ça ne change pas. Devoir faire 6 ans pour avoir un CDI, ça veut dire qu'on a 6 ans de période d'essai. Ça veut dire qu'on est capable d'aucun professionnalisme. Il faut qu'on attende 6 ans pour être CDIsé.
Une précarité qui aura aussi des conséquences pédagogiques sur les élèves handicapés en inclusion, selon Valérie Sipahi-Malani, secrétaire générale adjointe du SNES.
L'AESH, c'est le compagnon de travail de l'élève dans la classe. Et si on veut que les choses se passent sereinement, il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans les apprentissages et donc pas de rupture dans l'AESH. C'est toutes ces questions-là qui, pour le moment, ne sont pas traitées par l'institution, qu'on a besoin de travailler pour que ça se passe bien pour les élèves. Et si ça se passe bien pour les élèves, ça se passera bien aussi pour les personnels qui les accompagnent.
Des personnels qui s'inquiètent aussi de la mutualisation que prévoit le texte, puisque un AESH devra avoir obligatoirement plusieurs élèves en situation de handicap, et ce, quel que soit leur type de handicap, dénonce Virginie Cassandre, AESH à Paris.
Moi, je me suis retrouvée avec deux. Un élève spectre autistique et un élève malvoyant. Ça a été au détriment de l'un et de l'autre. Quand je suis à côté du malvoyant, je regarde s'il prend bien ses notes, je réajuste un peu ce qu'il écrit. L'élève spectre autistique, lui, si on le lâche, il ne fait plus rien. Il faut le stimuler tout le temps. Donc forcément, c'est pas possible.
Aujourd'hui, 175 000 élèves en situation de handicap sont accompagnés par des AESH.
Hakim Kasmi, merci. La reprise d'Ascoval par British Steel se fera. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a voulu rassurer aujourd'hui les 280 salariés de l'acierie nordiste reprise par le groupe britannique. British Steel a débloqué les fonds pour le rachat, de même que l'État britannique impliqué dans le dossier. Hier, pourtant, British Steel avait révélé avoir appelé à l'aide le gouvernement de Londres pour boucler la reprise d'Ascoval et évoquant même un risque de faillite. La météo demain, un temps toujours très calme, mais un peu plus nuageux sur un grand quart nord-est jusqu'aux Alpes du Nord. Ailleurs, le soleil devrait s'imposer. Température minimale de 3 à 13 degrés du nord au sud. Les maximales oscilleront entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.